L'affaire Ida Bossard, tuée pour survivre. Narration, Florent Houlier. Mardi 18 juillet 1989, Jean-Claude Bossard, 42 ans, marié et père de 5 enfants, décède chez lui dans son lit. Son corps massif, 1m90 pour 130 kg, repose inerte sous les draps, couché sur le flanc gauche, et si l'on ne prête pas plus attention aux détails, on pourrait se dire que l'homme, bien qu'encore jeune, a eu au moins la chance de s'être éteint à la maison, entouré des siens. Mais ce matin-là, à Salomé, parmi les 3000 habitants de cette petite commune de la couronne lilloise, pas un seul ne s'émeut. Tous se réjouissent de la grande nouvelle. La bête noire, la bête féroce, la saloperie n'est plus. L'humeur est à la fête. Augurin était paisible, débarrassé de sa tyrannie. La dépouille de Bossard échoue au cimetière militaire allemand jouxtant le village, inhumée au pied d'une sépulture éloquente. Une croix gammée grave sa pierre tombale en bas, une croix celtique trône en haut. L'emblème du PNFE, le Parti nationaliste français et européen, groupuscule d'extrême droite néo-nazi, raciste, antisémite et xénophobe. Tout un programme. Pas d'épitaphe, une date de mort, une autre de naissance. Le 14 novembre 1946, Jean-Claude Bossard venait au monde à Haubourdin, à une quinzaine de kilomètres de là. Ses origines sont troubles. Il perd son père à 10 ans, l'un de ses frères à la guerre en Indochine. Famille précaire, désossée, ouvrière. À 20 ans, menuisier-poseur à l'usine, il y rencontre Jacqueline Martin, bobineuse. Le couple se marie, s'installe à Salomé à la fin des années 60, dans un pavillon au 50 rue Saint-Michel-sur-Loire, en bordure de la commune, non loin de la Nationale. Leurs 5 filles naissent entre 1970 et 1988. Christine en premier, suivie de Mathilde, Ida, Erika et Edwige. On ne sait avec précision quand, ni comment, le schisme opère dans la tête de Jean-Claude Bossard. Des bribes d'insouciance subsistent un temps à Salomé, des souvenirs lointains, ceux d'un bon père, aimant et aimé, les enfants à dada sur ses larges épaules, tenant des cerfs-volants qui planent haut dans le ciel, un air d'harmonica qu'il aimait parfois jouer, au Susanna. Puis la misère, le renvoi de l'usine, le chômage longue durée, la métamorphose. Bossard peine à remonter la pente, échoue à pourvoir un poste d'éboueur municipal, la faute, selon ses mots, aux Noirs et aux Arabes, aux immigrés venus piquer le boulot des honnêtes gens. Il cultive la haine de l'étranger, attisée en 1984 par un rapprochement avec le Front National, parti de moins en moins marginal, fédérateur des poujadistes, des pétainistes et pire encore. On raconte que Bossard aurait intégré le service d'ordre de Jean-Marie Le Pen, nouveau visage borgné du FN, quand celui-ci faisait campagne dans la région. Le Pen le jugeait trop zélé, lui le trouvait en réponse trop mou et la rupture, inévitable, le pousse à se radicaliser dans des circuits plus équivoques, celui du PNFE à l'heure de sa création en 1987. Nous y venons. La branche dissidente du Parti nationaliste français milite contre le lobby juif, célèbre l'anniversaire du Führer, groupuscule dangereux présidé par un certain Claude Cornillot, ex-militaire condamné par contumace pour sa participation au putsch d'Alger en avril 1961, puis exempté de 20 ans de prison par l'amnistie de 1968. Tout un programme, on l'a dit. Blanche d'abord, France toujours. Bossard fait sienne la devise du PNFE et l'applique à la lettre. Il fait don au mouvement de la moindre de ses rentrées d'argent, esquive du reste les factures et bloque le compteur EDF. Il s'investit dans les sessions de collage, boitage, immonde ratonnade en France et en Belgique, siège aux réunions, apparaît dans les grands rassemblements tenus à chaque solstice au château Le Corvier, à Vouzon, en Sologne, château où il officiera comme régisseur à la fin de sa vie. Sa ferveur et sa loyauté le promulguent dirigeant de la section nord du PNFE, dite la section Charlemagne. Ça y est, il a trouvé sa place, sa vraie famille. Il en porte les couleurs, il a transformé son pavillon en mausolée du Troisième Reich. Mur repeint en kaki, croix gammée dans les chambres, sur la toile des cerfs-volants, portrait d'Hitler dans le couloir, chemise brune, cravate noire, brassard, chaussures ranger, treillis, tatouage. Justice, que de crimes en ton nom, lit-on sur son avant-bras. Il ne s'arrête pas là, pioche dans l'idéologie nazie les préceptes qui vont régir l'existence de sa lignée. Élevé, comme il l'écrit dans son journal, dans l'esprit du réveil de l'enfant racial qui sommeille au fond de chacun de nous, et dans la dénonciation du suffrage universel qui donne la même valeur à l'idiot congénital ou au génie. En lui, macère peut-être cette frustration, cette fatalité qui s'obstine à le priver d'un garçon qu'il pourrait façonner à son image. Il se rabat, faute de mieux, sur ses filles, vêtues de la même panoplie, ranger et treillis, t-shirt blanc floqué de la croix celtique, assez ample pour cacher le développement des corps adolescents. Les sœurs Bossard grandissent dans un véritable camp paramilitaire, rompues au sport de combat, battues, régulièrement contraintes de se battre, de s'infliger entre elles les punitions réclamées par le chef s'il n'est pas d'humeur à les corriger. Elles apprennent à résister à la douleur, à manier les armes à feu, se familiarisent avec un arsenal de guerre démesuré, caché derrière les fausses cloisons, dans le double fond de bouteilles de gaz trafiquées. Carabines, fusils à pompe, revolvers, poignards, ampoules explosives. Le père Bossard les endoctrine. Ordonne le Zieg Heil tous les jours devant le portrait d'Hitler, leur lointain oncle d'Allemagne. Les filles le prendront littéralement pour un membre de la famille jusqu'à leurs 13 ans. Il leur récite des dictées, extraits empruntés à la traduction française de Mein Kampf, colle des autocollants négationnistes sur leurs cartables, leur répète que les chambres à gaz n'ont jamais existé, les surnomme selon des noms de camps de concentration, Ida Dachau, Mathilde Majdanek, Edwige Ravensbrück. À la théorie s'ajoute la mise en pratique, sur le terrain, nécessaire pour servir pleinement la cause nationaliste. Sur des photos, les sœurs Bossard paradent avec des banderoles au rassemblement du PNFE, manifestent contre le droit de vote accordé aux immigrés lors des municipales de Mont-Saint-Barœul. À l'abri nulle part, à l'école, au collège, au lycée, elles sont sommées de s'attaquer aux autres élèves si outrage est constaté. Leur père ne les quitte jamais des yeux. Il ne travaille pas, il a du temps à revendre, guette leur combat derrière les enceintes, intervient carrément dans la cour, empêche quiconque, instituteur comme parent, de s'interposer, intimidant si besoin. Il sait le faire. Christine, l'aînée, sera condamnée à 10 jours de prison avec sursis pour avoir poignardé une camarade, pour rien, pour son prénom, Fatima. Le week-end, les jours fériés, il les emmène braconner, voler dans les magasins. Une nuit, il les embarque en opération commando. La mission. Brûler une collecte de vêtements destinée aux familles du tiers-monde. Bientôt, l'oppression exercée par Jean-Claude Bossard ne se limite plus aux 50 rue Saint-Michel-sur-Loire à ses occupants. Elle déborde, elle se déverse. Le colosse, le nazi de Salomé, comme on l'appelle ici, rôde dans les rues et terrorise son prochain, tient en laisse et d'une main ses deux chiens loups, dressés à attaquer au mot « bougnoul ». L'un des molosses est baptisé Eva, référence à Eva Braun, l'épouse d'Hitler, marié la veille de leur suicide. Il a la gâchette facile, il tire, partout, chez lui, dans le frigo, dans la tête d'une poupée, sur ses filles, sa compagne, ses voisins, sur les colleurs d'affiches du bord politique adverse, sur les vendeurs ambulants d'origine maghrébine, pour rien, là aussi, pour leur faire peur. Menaces de mort, coups et blessures, refus d'obtempérer, propos racistes, agressions racistes. Les plaintes contre lui pleuvent, il enchaîne les convocations à la gendarmerie de la Bassée, et on repart toujours indemne, ou presque. Le 20 août 1984, il plante devant un immeuble de Bourdin une croix gammée, portant la mention « Mort au bougnoul, vive Le Pen ». L'un des locataires, Karim Benhamida, la retire, s'en va la rapporter au commissariat. À son retour, quelques heures plus tard, il est abattu au pied de son immeuble d'une balle de 22 longs rifles. Le tireur est interpellé, Michel Cliquenoy, inculpé de meurtre, condamné à 9 ans de réclusion criminelle en novembre 1986. Jean-Claude Bossard, proche notoire du coupable, est lui désigné comme instigateur et prend 1 an de prison ferme pour incitation à la haine raciale. En cellule, coupé provisoirement de sa famille, il s'adoucit, prétend changer, promet à ses filles par courrier sa repentance, des virées à la pêche, des après-midi au soleil, les cerfs-volants dans le ciel, les nuits passées à contempler les étoiles. C'est le paradoxe de l'histoire. En dépit du calvaire, enduré depuis toutes ces années, les sœurs ne peuvent s'empêcher d'aimer leur père, elle se persuade qu'il peut redevenir leur gros nounours, qu'il peut en finir avec ses longues phases de dépression, ses séjours à l'hôpital, ses traitements chargés au Tranxen. Du vent. Ne pas se fier. Bossard joue le jeu. Il veut se faire bien voir de l'administration pénitentiaire, des services sociaux, au diapason de ses correspondances. Dès qu'il quitte la prison, tout recommence, en pire. L'humiliation, les coups, la violence. Nul n'ose le contredire, nul n'ose l'arrêter. Sauf Ida.